Alors, on est dans le cours âme-sœur. Il nous reste deux leçons pour compléter ce cours-là. Et puis, en fait, ce matin, c'est la dernière leçon un peu plus conventionnelle. Parce que la semaine prochaine, on va avoir un panel. Ça va être vraiment intéressant avec des personnes qui vont pouvoir répondre un peu à des questions, réfléchir avec nous, soit en relation avec le célibat. Parce que c'est des experts en ça, non. Mais... Donc, en relation avec le célibat, puis d'autres en relation avec les fréquentations. On va aborder les deux sujets qu'on avait dans ce cours-là à l'intérieur du même panneau. Alors, manquez pas ça. Si vous pensez qu'il y a des gens qui auraient dû suivre ce cours-là, puis qui n'ont pas été ici pendant le cours, tordez-leur le bras pour venir pour le panneau. Puis ensuite de ça, ils iront écouter le cours en audio sur le site web, d'accord? Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de comme se rattraper, puis de l'écouter justement sur le site web. Ah, on va faire un petit suivi pour être certain que nos leçons sont tous là. Alors, je m'appelle Yannick Étier, pour ceux qui ne le sauraient pas, et puis on va commencer la leçon. Ce matin, j'ai une requête de prière un petit peu particulière parce qu'on a des baptêmes, puis il y a le baptême de ma fille, Jade, ce matin, et mon frère est descendu de Rivière-du-Loup. Il va arriver tout à l'heure, il était à la maison. Et il est avec mon garçon qui a des gros maux de ventre, peut-être une indigestion. Alors, si vous permettez, on va prier aussi pour Bastien, pour que ça se règle, puis que tantôt Bastien soit des nôtres. Ce serait vraiment super. D'accord? Éternel notre Dieu, on veut te remercier pour cette journée qui commence. Seigneur, c'est certain que cette journée est spéciale pour moi, particulièrement pour ma famille, mais aussi pour l'Église, puisqu'on va assister à des baptêmes tout à l'heure. On te prie, Père, de nous bénir ensemble en assemblée, que chaque personne qui vient ici ce matin reçoive de toi, Seigneur, à travers des relations, à travers des poignées de main, à travers de l'écoute qu'ils rencontrent, Seigneur, à travers de l'aide, mais à travers aussi, Seigneur, premièrement, ta parole, le message de ta parole, Seigneur, la louange qu'on va élever vers toi. On te prie de mettre ta main sur Bastien, de le restaurer, Seigneur, pour qu'il puisse être... Bien dans son corps, pour être là tout à l'heure avec nous, pour assister au baptême de Jade. Je te confie mon fils, Seigneur. Je te prie de bénir cette leçon ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bon, je m'excuse. Le rhume est revenu à toute vitesse mardi. Ça a l'air que ça va être un petit peu comme ça. Ce matin, on couvre donc notre dernier sujet avant de passer au panel. On va parler de sexe. En fait, le titre de la leçon, c'est « Aller trop loin ». Quand est-ce que c'est trop loin dans les fréquentations? C'est quoi les limites? Comment est-ce qu'on gère ça? C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. C'est pas un sujet avec lequel moi je suis mal à l'aise, je suis tout à fait à l'aise de l'aborder. Puis ça se peut que ça brasse pas mal vos idées ce matin, d'accord? Ça dépend un peu où est-ce que vous êtes par rapport aux Écritures dans tout ça, jusqu'à quel point... Peut-être qu'il y a des idées reçues de la culture que vous avez adoptées ou des choses comme ça. Donc, ça se peut que vous me trouviez pas mal conservateur. Je serais surpris que vous ne me trouviez pas biblique, mais ça se peut que vous me trouviez pas mal conservateur. Donc, je vous encourage à réfléchir à ça, d'accord? À vous développer des convictions fermes. S'il y a un endroit, s'il y a un domaine où avoir des convictions avant de s'engager dans les fréquentations est super important, c'est sur cette question-là. Quelle sorte d'intimité on peut avoir dans le cadre de nos fréquentations avant le mariage? Parce que je vous dirais que c'est certainement l'endroit où les gens qui se fréquentent sont le plus tentés d'aller contre leurs convictions, de ne pas honorer leurs convictions. Je m'excuse un petit instant. Je pense que tu es attendu, Oscar. Donc c'est ça, c'est définitivement un domaine où les gens ont tendance à comme perdre leurs convictions parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, la chair étant ce qu'elle est, on veut vivre ça, on est pressé d'aller là, mais pas juste pour ça, des fois parce que notre vision de ça est tout simplement non biblique. Donc il y a vraiment deux dimensions pour moi. Il y a la réalité que l'intimité entre deux corps humains, entre un homme et une femme, c'est très attirant, c'est très agréable, et ça peut l'être en tout cas. Donc ça, c'est un élément qui demande d'avoir des convictions très fermes. Mais l'autre élément aussi, c'est qu'on est, je veux dire, s'il y a un endroit où le christianisme est contre-culturel actuellement, c'est là, d'accord? C'était plus simple il y a 100 ans sur cette question-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais donc c'était plus simple, OK? Fait que c'est ça. Donc ça demande vraiment d'avoir des convictions très fermes. Il faut absolument que je passe à travers la leçon ce matin. On a 45 minutes pour le faire. Donc, je vais prendre quelques questions. Ça va me faire plaisir. Mais si je sens qu'on passe sur un rabbit trail puis que je n'arriverai pas dans ma matière, je vais être obligé de vous demander soit de m'envoyer un courriel, quelque chose comme ça, ou couvrir les questions à un autre moment. Si ce sujet-là est délicat, ce n'est pas que les Écritures n'en parlent pas. D'accord? Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est un sujet qui est abordé quand même assez régulièrement. De manière surprenante, on pourrait penser, admettons, que la religion ou le christianisme ne parle pas beaucoup d'argent parce que ce n'est pas spirituel ou ne parle pas beaucoup de sexualité. Mais c'est faux. Les deux sont très spirituels. Et donc, les Écritures en parlent quand même abondamment. Je dirais même encore plus des finances puis des biens matériels, tout ça. Mais la sexualité, c'est très présent dans l'Ancien Testament. C'est passablement présent quand même dans le Nouveau Testament. Puis comment est-ce que Dieu voit la sexualité, c'est très, très clair aussi. Je m'excuse, je reçois des nouvelles de mon garçon. Donc, si on va dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, l'adultère. L'adultère à l'intérieur du peuple d'Israël entraînait la peine de mort. C'est quand même assez clair, je pense. Tu ne peux pas être plus clair que ça. Et donc, si un couple marié, si une personne qui était mariée était surprise en adultère et qu'on pouvait vraiment démontrer les faits, on avait donc les deux coupables, ils étaient condamnés à mort, littéralement. C'était comme ça, c'était une théocratie dans l'Ancien Testament. C'était un monde où on assumait que tout le monde, tout le peuple allait suivre la loi de Dieu, marcher dans les voies de Dieu. Et donc, il y avait peine de mort dans le cas d'adultère. Fait que de là à aujourd'hui, notre époque, où, évidemment, dans le monde, je m'excuse, je vais être un peu grossier, tout le monde couche partout, à droite et à gauche. Puis plein de couples chrétiens en fréquentation tombent d'une manière ou d'une autre avant le mariage. La culture a changé radicalement, d'accord? Mais les Écritures sont super claires sur ça. Puis si, d'un autre côté, on veut s'ouvrir les yeux, la sexualité aujourd'hui dans notre société, que tu aies une perspective chrétienne ou non, entraîne un paquet de problèmes, parce que l'être humain ne sait pas comment gérer ça, cette affaire-là. Fait qu'il y a des crimes passionnels qui sont faits en relation avec ça. Il y a des millions de femmes dans le monde qui sont abusés, qui sont esclaves, qui souffrent de tout ça. T'as d'un côté des femmes qui sont contre, par exemple, la pornographie puis la prostitution chez les femmes parce que, selon elles, dans une perspective chrétienne aussi, mais pas nécessairement juste des chrétiennes, comprennent bien que la femme devient tout simplement un objet dans ce cas-là, qu'il n'y a aucune relation qui est possible avec une femme sur un écran ou quelque chose comme ça, ou une prostituée que tu payes. Puis d'un autre côté, t'as des femmes qui défendent en Occident, bec et ongle, le droit à voir la prostitution comme un métier comme un autre, une profession comme un autre. D'accord? Donc, il y a une confusion complètement folle liée à la sexualité. Puis, n'importe qui, je veux dire, chrétien, pas chrétien, va dire que notre société souffre beaucoup en relation à une sexualité qui n'est pas bien comprise, puis qui est très mal gérée dans le monde, qui est très mal assumée dans le monde. Donc, même ce qu'on va aborder ce matin, c'est pas un sujet qui est difficile. C'est pas un sujet où c'est difficile de comprendre où est-ce que les Écritures se situent. C'est plutôt un sujet ou un domaine qui est difficile à assumer, à entrer dedans avec une conviction ferme. D'accord? Et vraiment, vraiment, notre prière, c'est que chacun d'entre vous change son réflexe. J'ai aimé comment c'était présenté dans le cours avec l'église de Capitol Hill. En général, lorsqu'on s'engage dans les fréquentations puis qu'on se pose la question sur « OK, quand est-ce que c'est trop loin? » Mais c'est justement ça la question qu'on se pose. C'est quoi la limite? C'est quoi la limite? Mais on ne se pose pas la question « Comment Dieu va-t-il être glorifié dans notre intimité, dans nos fréquentations? » où se trouve la gloire de Dieu lorsque je suis en train de fréquenter Esther puis on est seul à seul ensemble? C'est pas ça la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est quoi la limite? Je veux savoir jusqu'où je peux aller, puis là, c'est pas mal. Mais le premier réflexe, c'est pas « je veux que Dieu soit absolument glorifié dans mes fréquentations ». Je comprends que les deux peuvent aller ensemble, mais soyons francs, là. Okay? Notre question, c'est « quand est-ce que je me ferai pas taper ses doigts, puis j'aurai pas de l'air d'un colon, puis ça va être correct? » Puis « quelle limite j'ai pas le droit de franchir? » Puis pour plusieurs, ben le plus loin possible, cette limite-là. Ce qu'on espère, c'est qu'après une leçon comme celle-là, après le cours, votre approche à l'intimité dans les fréquentations soit plutôt comment est-ce que Dieu va être glorifié dans cette relation-là, dans ce sujet-là, au sujet de notre intimité ensemble pendant les fréquentations. Où se trouve la gloire de Dieu? Parce que quand viennent les tentations, c'est juste ça qui va faire la différence. D'accord? Juste la redevabilité, rendre des comptes, savoir que vous allez devoir parler à quelqu'un, tout ça. C'est pas ça qui t'empêche de pécher. Ça t'empêche de pécher, de continuer à pécher. Ça t'empêche de pas te remettre en question, mais ça t'empêche pas de pécher. La redevabilité, c'est utile pour les gens qui veulent bien faire. C'est inutile avec les gens qui veulent pas bien faire. Donc, simplement, clairement, toute relation sexuelle hors mariage est péché. Toute relation sexuelle hors mariage est péché. Puis j'ai mentionné quelque chose il y a quelques semaines. Ça m'arrive encore aux deux, trois ans de tomber sur une situation où il y a un couple qui se sont commencés avec des vues de l'esprit à se faire à croire que puisqu'eux autres se sont engagés, ils ont pris la décision, à partir de ce moment-là, la sexualité est admissible. D'accord? C'est comme s'ils sont mariés devant Dieu, puis après ça, on va aller le faire devant les hommes. Je vais vous répéter la même chose, mesdames, que j'ai dit à... Es-tu quelqu'un qui peut aller me chercher Esther, qui est en arrière? Sam, tu peux-tu aller me chercher Esther? Elle s'en vient? OK, je m'excuse, je vais faire juste une pause sur le micro. Nous disions. Est-ce quelqu'un qui m'écoutait? Oui, merci, merci. Donc, mesdames, je fais juste vous répéter, là, vite, vite, vite. Si vous tombez sur un tata qui vous dit ça, on s'est engagé, donc on est comme marié, on est marié devant Dieu, fait qu'à partir de ce moment-ci, tout est correct. M'excuse. Premièrement, c'est un tata, OK? Si vous en doutez, envoyez-le moi, je vais m'en occuper. C'est un tata, parce que le jour où il va vous laisser avant le mariage, il ne va pas considérer ça comme un divorce, puis il ne s'attendra pas à ce qu'on considère ça comme un potentiel adultère, puis qu'on le mette en discipline. Comprenez? Sa conviction va tout simplement disparaître, puis il avait mal compris les textes bibliques. Dans tous les cas, c'est ça qui s'est passé. Je vous le dis. Dans tous les cas, c'est ça qui s'est passé. Fait que, personnellement, je ne l'avale plus, là. Si tu as un doute, va consulter un pasteur avant vraiment de considérer que tu es marié. T'sais. C'est sûr que tu pourrais sauver beaucoup d'argent. Hein? En fait, tu as juste à dire ça à ta fiancée. Regarde, on est déjà marié devant Dieu. On n'a pas besoin de dépenser 5, 6, 10 000 $ sur notre mariage. On va tout sauver ça. Es-tu d'accord maintenant? On peut coucher ensemble. Je pense qu'elle va te dire non, je veux une vraie noce. Fait que tu vas fermer ton zipper jusqu'à temps qu'on se marie. En tout cas, toute sexualité hors de l'union du mariage est un péché. C'est super clair dans les Écritures. Je vais oser vous demander si vous avez une question là-dessus, mais j'imagine si vous en avez une, vous allez plutôt m'écrire. Mais c'est correct. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter la chose ou poser une question? Oui. Oui, tu es déjà dans un rapport sexuel. Oui, oui. Oui, oui. Mais on va développer un petit peu dans le cours, dans le fond, c'est quoi de la sexualité? D'accord? C'est peut-être là que vous allez trouver que je suis un vieux macho, mais je suis prêt à faire des contestations aussi longues que vous voulez avec vous. Je suis absolument sûr de ma conviction. Genèse 2, 24. va commencer par le fondement du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors évidemment, dans ça, il y a beaucoup plus que la sexualité. Il y a une union de vie, il y a une union de projet de vie, il y a une union de relation. Lorsqu'un des deux conjoints n'est pas heureux, c'est très difficile pour l'autre d'être véritablement heureux, même si je me confie en Dieu. Donc, c'est beaucoup d'autres choses que la sexualité, mais c'est définitivement la sexualité aussi. Et donc, Dieu a conçu dès l'origine cette relation entre un homme et une femme qui va être liée par « je quitte la maison de mes parents, je m'unis à mon épouse et on devient une seule chair ». C'est pourquoi tout le projet dans l'Ancien Testament, que bien des hommes ont eu de la polygamie, Dieu a toléré des trucs qui étaient là, mais c'est clair que ce n'était pas dans le cœur de Dieu pour le mariage. C'est hyper clair, ça devient encore plus clair dans le Nouveau Testament. Mais tous les problèmes qu'il y a dans l'Ancien Testament liés à la polygamie vont aussi dans ce sens-là. Tu ne peux pas être une seule chair avec plein de femmes, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas dans le sens biblique du terme, pas dans le sens véritable du terme. Ça n'existe pas, cette affaire-là. Fait que, définitivement, c'est à l'intérieur du mariage qu'un homme et une femme deviennent une seule chair. Oui, Paul.
Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans son argument. Il me dit, ouais, mais il dit, le mariage, qu'est-ce que le mariage finalement? Bon, là, ouais. Tu viens de parler de, comme, oh, ben là, on s'engage, tu sais, mais là, je parle pas d'un tata, je parle de quelqu'un qui est sérieux, là. mais là, il me disait, ouais, mais voyons, le fils d'Abraham, Isaac et Rebecca.
Ouais.
Tout ce qu'on voit dans le récit, c'est ben Isaac, il se fait amener Rebecca, il la voit, il la trouve qui autre, ça a l'air d'être la volonté de Dieu, parce que le serviteur est allé la chercher, en tout cas, toute l'histoire.
Ouais.
Puis là, ben, il n'y a pas de cérémonie, il l'amène dans sa tente, bingo, son marié.
Bonne question, Paul, merci. J'ai commenté déjà un petit peu l'idée de qu'est-ce qui fait que j'ai un mariage, parce que c'est ça, il y en a qui vont jouer sur ce concept-là, ils vont dire dans les Écritures, c'est-tu écrit qu'un pasteur doit célébrer un mariage, tout ça? Il y a quand même plusieurs principes clairs qu'on peut sortir qui vont guider comment est-ce qu'un mariage devrait être célébré. Il y a vraiment l'idée que c'est une union permanente, c'est une union qui est publique, que tous les gens voient, c'est une union devant Dieu, devant les hommes, c'est une union pour laquelle, si tu la brises, tu vas devoir rendre des comptes devant les hommes, devant les témoins. Ça, c'est tous des concepts là, super clairs, même si je n'ai pas comme un descriptif d'une cérémonie du mariage. La chose que je dirais par rapport à la situation avec Isaac puis Rebecca, d'une part, à la limite, c'est comme ça que j'argumente, là, vous me connaissez, là, si tu veux y aller au pied de la lettre, on va y aller au pied de la lettre. Moi, j'ai pas de problème. Je vais envoyer un serviteur, il va la choisir pour toi, tu vas prendre celle que le serviteur a choisie pour toi. Quand on va revenir, devant tous les témoins, tu vas rentrer dans la tente avec elle, ça veut dire que c'est fait. Tu reviens plus en arrière. On peut y aller vite comme ça, mon ami, pas de trouble. Maintenant, c'est de la littérature. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, ça s'est passé comme dans la seconde, dans la minute, ou est-ce qu'il est en train de nous faire une synthèse d'une célébration où on voit juste le cœur d'Isaac qui est en train de dire « Dieu a dirigé, mon cœur embrasse cette femme-là, je l'aime, puis on va aller vers ça. » On est dans la littérature. Fait que je pense qu'il y aurait beaucoup à faire au niveau de l'exégèse pour juste aller voir d'autres passages qui nous demandent, tu sais, ce que tu fais, admettons, dans un texte comme celui-là, c'est que tu vas aller voir d'autres passages dans le même livre où une lecture littérale du texte est tout simplement impossible. Ça, c'est impossible que ce soit passé comme ça parce que le temps, n'importe quoi. Là, tu dis, ah, OK, j'ai un indice des fois que l'auteur prend des raccourcis pour son style littéraire. Fait que je ne l'ai pas étudié comme ça, ce texte-là, mais c'est quelque chose que j'irais examiner. Mais après ça, si on veut le prendre basic, littéral, c'est correct. Tu veux le faire comme dans cette culture-là, on y va jusqu'à... All the way, man. Pas de problème avec ça. Il y a beaucoup d'implications, tu sais. Fait que je l'ai choisi pour toi, ça va être un bon match, tu vas être content, tu rentres devant tout le monde, c'est réglé, c'est fini. C'est beau. Fait que c'est un petit peu comme ça que je veux réfléchir avec les gens, parce que c'est vrai que les Écritures me disent pas, c'est un passe-temps qui doit le faire, ça doit se faire un samedi, ça doit se faire dans une église. Non, il y a plein d'affaires qu'on sait pas. Ce qu'on sait qui est clair, c'est un engagement à la vie et à la mort, c'est un engagement devant Dieu, devant les hommes. Les hommes vont te tenir responsable de cet engagement-là que tu prends devant eux. Ça, c'est des choses qui sont super claires. Ça répond un peu, Paul? Oui. Flore.
Ma question concerne la célébration du mariage en lui-même. Si on prend le cas du Canada, ici, on peut célébrer soit au palais de justice ou bien dans une église. Mais il y a des pays où le mariage devient officiel lorsque cela s'est passé devant une autorité administrative, une autorité publique. Si je prends le cas du Cameroun, par exemple, tu ne pourras pas aller célébrer ton mariage juste à l'église et c'est valide devant l'État. Il faut passer par la mairie.
C'est comme le système français. Ouais.
Justement, c'est un peu comme le système en Europe.
Je vais répondre vite, vite, mais après ça, on va revenir à notre sujet qui est la sexualité, d'accord? Donc, c'est simple. Au Québec, les ministres du culte sont reconnus avec un numéro qui fait que moi, je peux célébrer un mariage tout autant que le maire peut célébrer un mariage. Mais c'est vrai qu'au Québec, tu pourrais aller le faire par le maire aussi. Donc, il y a différentes institutions qui, légalement, ont exactement la même autorité, contrairement à la France, admettons. Alors... Oui, à la cour municipale, maintenant, oui. Ouais. Ben, ma réponse, c'est qu'on est marié devant Dieu. Ma réponse, c'est qu'on est marié devant Dieu, que ce soit devant un pasteur, que ce soit célébré par un pasteur ou à la mairie, on est marié devant Dieu. C'est un mariage public, puis je vais devoir rendre compte pour ça. Maintenant, de préférence, les chrétiens au Québec, on a le privilège de pouvoir le faire dans un contexte religieux, parce que le maire ne sera pas tellement bon pour expliquer Éphésiens 5. Fait qu'on préfère le faire dans un contexte où on célèbre vraiment le mariage devant Dieu, puis la loi nous permet de le faire entièrement légalement. On continue. Je ne veux juste pas perdre mon fil pour m'assurer de bien couvrir la matière. Dieu a conçu la sexualité pour se vivre dans le mariage, et donc la sexualité est appelée à nous permettre de procréer, c'est vrai, mais est appelée à être l'expression de l'amour dans le couple. C'est l'expression d'un amour qui est sans condition. C'est l'expression d'un amour qui est permanent. Lorsque, dans des fréquentations, on va se permettre de vivre une intimité sexuelle, dans des fréquentations, on dénature profondément ce qu'est la sexualité selon Dieu. Parce qu'on dissocie la sexualité qui est liée à un amour permanent, un engagement sans condition l'un envers l'autre, puis on se rapproche d'une conception culturelle de la chose qui est un acte physique. C'est un jeu sans portée morale réelle. D'accord? Aujourd'hui, dans notre société occidentale, au Québec, tout ça... La seule véritable portée morale de la sexualité, c'est un peu réducteur ce que je vais dire, mais en gros, c'est ça. La seule portée morale de la sexualité, c'est est-ce qu'elle est vécue avec liberté? C'est la seule question morale en relation avec la sexualité. Le reste, c'est totale liberté, puis on fait ce qu'on veut. D'accord? Mais en réalité, donc elle n'est pas l'expression d'un engagement. Ça a été réduit à son aspect biologique. Puis du moment que ça se fait dans une liberté, dans un consentement mutuel, tu as absolument le droit à n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand. D'accord? Et toute la profondeur, toute la richesse de ce que c'est la sexualité comme l'expression d'un amour engagé où on va aller vivre ce moment-là qui est le plus intime qu'il va y avoir entre deux êtres humains sur le plan physique. Quand on vit ça avec personne d'autre en principe. Puis lorsqu'on le vit avec quelqu'un d'autre, on comprend très bien qu'on a vécu la plus grande intimité physique que tu peux vivre avec quelqu'un. Donc ça, selon les Écritures, c'est quelque chose qui est pour le mariage. Lorsque ça se vit dans les fréquentations, il y a cet aspect-là sacré de la sexualité qui est dénaturé. On est en train de déformer le projet de Dieu pour la sexualité. On est en train de déformer le projet de Dieu pour le mariage. Alors si dans vos fréquentations, il y a de l'intimité sexuelle qui se présente là, votre théologie que vous êtes en train d'exprimer sur la sexualité, votre compréhension de la sexualité puis du mariage est dénaturée. Littéralement. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis là ou si je parle un jargon? Est-ce que ça va? Parce que ce n'était pas ça le concept de Dieu. Le concept de Dieu, c'était vraiment pour que ça se vive ensemble dans l'intimité. Alors, si vous voulez vous poser une question pratique, qui a de l'air théorique, mais pratique. est-ce que ce que vous prévoyez vivre comme intimité dans vos fréquentations, ou est-ce que ce que vous vivez actuellement, ou est-ce que ce que vous avez vécu comme intimité dans vos fréquentations, reflète bien la gloire de l'Évangile, reflète bien ce que Dieu pense de l'amour, ce que Dieu pense de la sexualité? Est-ce que j'ai un bon reflet de ça? Et lorsque je parle de l'Évangile, je parle de cette idée que Christ est venu s'offrir pour moi, Christ s'est donné pour moi dans une abnégation totale. Dans mes fréquentations, si je décide d'aller de l'avant avec une intimité sexuelle, alors que les Écritures sont super claires, est-ce que je suis en train de vivre ces valeurs-là de l'Évangile, ou est-ce que je suis en train de dire à mon futur ou ma future conjointe que, en réalité, notre relation de mariage, tu vas être marié avec un égoïste qui ne va pas se donner et qui ne va pas souffrir pour toi, c'est qu'il va prendre ce qu'il veut de toi. D'accord? Alors, ce que vous vous préparez à vivre dans vos fréquentations, est-ce que ça va bien illustrer l'Évangile, qui est cet amour sacrificiel de Christ, ou est-ce que ça va être un reflet plutôt de ce que vous êtes en réalité, un être égoïste, qui va se servir du mariage pour en retirer ce qu'il veut? Je pense que dit comme ça, ça va être quand même à être assez clair et à faire réfléchir, d'accord? Et donc, dans nos fréquentations, parce que ça, on l'a dit tout au long du cours, dans nos fréquentations, on veut illustrer le fait, on veut démontrer le fait que mon désir, c'est de me donner pour toi. Mon désir, c'est de prendre soin de toi. Ça guide un paquet de choses. Ça va guider ma transparence, mon honnêteté lorsque je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble, puis je ne vais pas niaiser avec toi. Ça va guider justement ma franchise pour dire, regarde, mon cœur est entièrement à toi. Je suis prêt à te le donner si tu veux me donner le tien. Moi, je suis prêt à ce qu'on se marie. Ça va guider comment est-ce qu'on va échanger ensemble. Ça va guider notre intimité, justement, lorsqu'on est là tous les deux ensemble. Fait que si dans vos fréquentations, c'est clair pour vous que vous voulez communiquer à l'autre, regarde, je pense que tu devrais me marier parce que tu as trouvé quelqu'un qui va se donner à 100% pour toi, bien, communique-lui pas qu'elle a trouvé quelqu'un qui va se servir de toi. Même s'il est consentant. D'accord? Romains 13, rapidement, juste pour aller voir des passages encore super clairs. « Ne devez rien à personne, vous l'avez dans vos notes, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Dans les fréquentations, une des choses qu'on peut vivre vraiment, c'est s'aimer. Si je vais avoir la sexualité, ce n'est pas de l'amour. Dans ce cas-là, c'est un acte égoïste que je suis en train de poser. Mais j'ai la liberté vraiment d'aimer l'autre. Ça veut dire que je vais protéger l'autre, je vais prendre soin de l'autre, je vais la respecter ou le respecter, l'honorer. Puis c'est comme ça que je vais l'aimer. Romains 13, 14. « Marchons honnêtement comme en plein jour. » Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Luxure, définition d'antidote, dictionnaire, recherche immodérée des plaisirs sexuels. Impudicité, disposition à adopter une conduite réprouvée par la morale sexuelle qui manque de pudeur et de décence. La pudeur et la décence, c'est que l'intimité sexuelle, c'est dans l'union du mariage. Alors, ce que Paul dit, il dit « Marchons honnêtement comme en plein jour. » Peut-être la question que je peux vous poser, c'est ce que vous vous permettez dans vos fréquentations, êtes-vous prêt à l'assumer devant l'Église? Est-ce que pour vous, il y a des choses personnellement que je fais dans ma vie qui pourraient être une pierre d'achoppement pour certaines personnes. Par exemple, moi, je bois de la bière. Si je bois trop de bière, je pêche. Mais si je bois de la bière, je ne pêche pas. Maintenant, je ne vais pas nécessairement provoquer des gens en disant, regarde, tu veux-tu une bouteille de bière? Je vais demander si lui est à l'aise avec ça ou non, ou si c'est un péché pour lui, d'accord? Mais ce que je décide de vivre dans mon intimité, dans mes fréquentations, est-ce que je suis prêt à l'assumer devant l'Église, oui ou non? Ou est-ce que je dois le vivre en parallèle, un peu caché? Très brièvement, Sam.
Tu parlais de la définition de luxure. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la luxure dans le mariage? sans pour autant être adultable, tout ça, mais que ça reste dans le mariage, est-ce ben que oui. ça peut aller jusqu'à la luxure?
Définitivement.
C'est une bonne question. Explique cette affaire-là.
Je vais y aller brièvement, par exemple, mais oui, mais dans le mariage, oui. La sexualité peut être une idole à l'intérieur du mariage. Tu peux vraiment faire souffrir ton partenaire si pour toi, c'est comme. C'est quelque chose dont tu as des désirs immodérés. Tu peux être totalement accro à la pornographie, puis donc ne pas être infidèle physiquement, mais l'être dans ta tête, clairement. Mais c'est des désirs immodérés. Si la sexualité devient une idole dans ta vie, une des raisons pour laquelle c'est super important de mettre toutes tes énergies, si tu as des problèmes, par exemple, avec la pornographie, si tu as des problèmes avec la masturbation aussi, de régler ces trucs-là avant de te marier, c'est que l'erreur fondamentale qu'on fait, c'est de penser que dans le mariage, ça prend moins de maîtrise de soi. C'est pas vrai, ça. C'est complètement faux. Vivre l'intimité sexuelle dans le mariage sans maîtrise de soi, c'est faire mal à l'autre. Ça va conduire à ça. Inévitablement, c'est vivre avec des combats d'aller regarder ailleurs. Quand les gens pensent que... quand Paul dit « mariez-vous plutôt que de brûler », ça reste là l'idée. Mais si tu n'as pas de maîtrise de soi avant, comprenez? Parce que Paul n'est pas en train de dire « ah, OK, vous fréquentez puis vous avez des relations sexuelles, fait que mariez-vous ». C'est pas ça qu'il est en train de dire pantoute. Il est en train de dire « si tu penses que tu n'es pas appelé au célibat, mais que tu es appelé à vivre l'intimité avec une femme puis construire ça puis tout ça », marie-toi, ça va. Mais Paul n'est pas dans un contexte où il dit, bon, puisque vous tombez ensemble dans l'intimité sexuelle, dans vos fréquentations, on va vous marier. Non, c'est pas ça. Je pense qu'ils auraient discipliné de là. C'est ça qui se serait passé. Fait que l'idée que je me marie, puis tous mes combats avec la maîtrise de soi que je vivais dans le célibat, j'aurais pas allé vivre dans le mariage. Je vous le dis, vous vous plantez complètement, vous êtes dans l'erreur. On a un paquet de problèmes à régler avec des couples qui sont mariés parce qu'un des deux n'a pas de maîtrise de soi. Fait que le désir immodéré de sexualité, lorsque la sexualité est une idole dans ta vie, c'est problématique tout autant dans le mariage que dans le célibat. Ben, t'es pas capable de t'en passer. Dans le mariage, il y a 1000 raisons pour lesquelles tu dois t'en passer. Pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Plein de moments où il y a des situations qui arrivent, des problèmes de santé chez ton conjoint, il y a des conflits, puis c'est clair que c'est pas le temps d'aller là, parce que je vais communiquer des mauvaises affaires à mon épouse si on décide de vivre l'intimité sexuelle. Ça peut être à cause du travail. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent faire que si j'ai pas de maîtrise de moi, c'est une idole. Je veux dire, écoutez, là, quand Esther accouche d'un enfant, là, la pauvre madame est virée bout pour bout dans son corps, ça n'a pas de bon sens. Les hormones sont tous les bords. Elle a porté un enfant, elle est fatiguée, on ne dort pas. Si Johnny n'a pas de maîtrise de soi, on est mal pris, là. Fait que si c'est une idole, tu es centré sur toi-même. Puis je veux dire, on fait de la thérapie de couple avec des couples où Joe Blow, il est tellement centré sur lui-même que, oh, pauvre petit lui, il n'a pas tout ce qu'il a besoin. T'sais, il vient d'avoir un bébé, puis là, son couple ne va plus bien. Puis là, quand tu commences à fouiller un peu, tu fais un petit peu de ménage, il y a une grosse idole qui s'appelle sexe dans sa vie. Il n'y a pas de maîtrise de soi. C'est un désir immodéré. Je vais m'arrêter là. Si tu as d'autres questions, on continue. À la fin de ce passage-là, Paul termine en disant « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » S'engager dans une intimité sexuelle avant le mariage vise précisément à satisfaire la chair et à assouvir ses convoitises. C'est ça qu'on fait lorsqu'on a de l'intimité dans le mariage. Maintenant, allons-y concrètement, d'accord? Je vais juste avancer un petit peu plus vite. Quand est-ce qu'on vit de la sexualité? Un peu plus loin dans les notes, on a toute activité sexuelle et du sexe. Vous allez être tenté de rationaliser des trucs. OK? Fait que je vais dire le plus simple pour moi parce que je trouve que c'est. On le conçoit vite, on le conçoit bien, puis ça se communique bien. Ce qu'on appelle, quand j'étais très jeune, on appelait ça des French kiss, necké, appelez-le comme vous voulez, mais des baisers vraiment passionnels où on est dans l'intimité buccale l'un de l'autre. C'est du sexe. C'est vraiment du sexe. Des caresses intimes où on est en contact l'un avec l'autre, puis on reste là, puis on fait juste comme, je vais le dire, comme c'est ce qui se passe pour de vrai. On jouit du corps l'un de l'autre, même si ça ne se passe pas, étendu dans un lit ensemble. Puis on est juste en train comme de... C'est pas juste un moment affectueux. Moi, des moments affectueux, là, vous me regardez comme il faut dans le cadre de porte. J'ai des sœurs, là, sont tellement comme... Ils me sautent dessus, puis un gros colleux, tu sais. No sex, je peux vous le dire. Tout est clean. Tout va bien. OK? Mais si on reste accolé comme ça pendant 3 minutes, à... Tu sais, à un moment donné, vous viendriez me voir, vous diriez, Esther, occupe-toi de lui, on a un problème. Vous comprenez? Puis laissez-moi l'illustrer comme ça. Quand tu es marié, tu sais que c'est du sexe, parce que quand ta femme fait ça le matin, tu sais qu'il y a une belle soirée qui s'annonce. Peux-tu le dire autrement? Si ma femme me saute dessus, puis c'est pas un petit bec que ça joue quand je pars ou lorsqu'on se laisse, mais que non, on est déjà dans les gros baisers passionnels, ben, je pense qu'on va passer une belle soirée. C'était gentil, mon garçon. C'est du sexe. Fait qu'on était dans les fréquentations, Esther et moi, puis comme je vous ai dit, nous, on avait mis comme les choses super claires, mais à un moment donné, je l'ai laissé sur le pas de la porte, puis c'était la grosse accolade, puis on est resté là comme un petit peu trop. Ben, j'ai deviné que ma femme avait deviné, que ma future femme avait deviné que dans ma tête, j'étais rendu ailleurs. Juste lorsqu'elle est en contact avec moi. Je n'en dirai pas plus. Ça va? Fait que je me suis dit, non, je pense qu'on ne sera plus dans cette position-là ensemble. Elle va deviner trop de choses sur ce qui se passe dans ma tête. Fait que c'est du sexe. C'est du sexe. La sexualité, c'est 90% dans la tête. Il y a certains gestes qu'on pose physiques qui nous font passer de « Salut, je t'aime, on a passé une belle soirée, j'ai hâte qu'on soit mariés » à « J'ai hâte à bien d'autres choses aussi. » Puis ça, ça s'exprime par des choses super simples qui ne sont pas compliquées. Puis quand dans votre tête, ça passe d'un à l'autre, vous êtes dans le sexe. Puis ça, c'est pour le mariage. Fait que pour moi, necké, man, c'est « come on ». Come on, il n'y a pas rien de plus sensuel, sexuel que cette affaire-là. Après ça, c'est le lit, puis ça finit là. D'accord? Fait que c'est tout ce qui dans ta tête va faire que tu changes de gear, là. Tu t'en vas ailleurs. On passe en deuxième vitesse, je suis en train de rêver à autre chose que notre prochain souper ensemble. C'est du sexe. Donc, il devrait y avoir cette distance-là dans les fréquentations qui font que les contacts physiques ne vont pas conduire à ça. D'accord? Puis que si ça conduit à ça, c'est parce que je laisse aller mon imagination. C'est pas parce que physiquement, on a pris cette direction-là. Oui, John?
Qu'est-ce que tu fais quand, que, dans le fond, chacun est différent? Et donc, chacun, justement, va partir dans cette direction-là à un moment différent. Moi, dans le fond, après un certain temps, je veux dire, je faisais juste tenir la main à Nathalie. Mm-hmm. Puis moi, je partais dans mes pensées. Fait que ouais. Moi, j'ai arrêté, au début des fréquentations, j'ai arrêté les contacts physiques-là. Mm-hmm. Mais pour d'autres, dans le fond, tu comprends, dans le fond, qu'à un moment donné, c'est comme, OK, bon, mais ta limite est là, la mienne est là. Fait que, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'arrête à tenir la main si moi, dans le fond, je suis pas en train de pécher, dans le fond, en dans la main? Fait que, dans le fond, je peux me justifier puis aller plus
loin.
Super
bonne question, John, mais la réponse que tu donnerais, je le sais, là, malgré ta question. La réponse, c'est que je fréquente l'autre pour lui dire, regarde, ça vaut la peine que tu me maries, je vais me donner pour toi. Mais même si tu as des combats dans ta tête, on va continuer à se tenir la main. C'est pas là. C'est lucide à sauver un courant, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on doit dialoguer, puis on doit simplement dire, regarde, je suis pas prêt pour ça. Puis ça peut susciter des questions. Nous, personnellement, on a mis ça super comme straight, là. Tu peux pas être plus droit que nous, là. 6 mois, aucun contact physique. Parce qu'on voulait pas... On savait qu'on allait avoir des conflits dans les 6 premiers mois. On savait qu'il allait y avoir des moments d'incompréhension. On voulait pas que ça se règle avec un colleux. On voulait apprendre à dialoguer. Fait que non, puis ça nous intéresse pas. Puis nos fréquentations n'allaient pas être juste 12 mois. Fait que bon, c'est bien comme ça. On va dire qu'après 6 mois, on commence à se tenir la main. Puis Esther, elle veut pas. Puis moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est correct que je veux comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il y a des combats ou est-ce que c'est parce que tu as des choses à régler dans ta tête avant de te marier. T'sais, elle a peut-être vécu des choses qu'elle ne m'a pas encore dites. Puis peut-être qu'il y a des traumas qui sont là et qu'elle devrait aller adresser ça. Fait que c'est correct de poser des questions. C'est correct qu'il y ait un dialogue. Puis quand ça se fait dans le contexte où tu es suivi par un couple qui t'accompagne dans les fréquentations, bien, il y a certaines de ces questions-là qui vont pouvoir popper soit dans la rencontre à quatre, soit qu'on se sépare tout simplement, puis la fille va prendre un temps avec la madame, puis tu sais. Mais c'est correct de poser des questions aussi. Mais je pense que ça se fait dans le dialogue, ça. Puis ça peut se faire de manière très saine, puis très peu, puis j'ai pas besoin de... Chaque personne sont différentes. Là, on vit à une époque où c'est comme à peu près tous les rêves sont éclatés par ce que les jeunes voient sur Internet. Je pense que les jeunes ont beaucoup de difficultés à rêver, puis à vivre des beaux rêves, parce qu'on scrappe tout ça avec ce qu'ils voient sur Internet. Mais je veux dire, dans mon temps, oui... Une fille pouvait fréquenter un gars, puis dans sa tête, sans qu'il y ait de contact physique, elle pouvait passer son temps à rêver à ça, à cette intimité-là, même sexuelle. Et un gars pouvait le faire aussi. Fait que, je veux dire, si c'est juste les contacts physiques qui vont être la contrainte, ça ne règle même pas ce problème-là. Donc, je suis toujours tenu à avoir de la maîtrise de soi. Ça répond un peu, John? Fait que je ne crois pas que c'est difficile, si on est honnête avec nous-mêmes, je ne crois pas que c'est difficile de déterminer quand est-ce que ça devient de la sexualité. Personnellement, je n'y crois pas. J'ai personne à date qui a voulu, quand je faisais mon argument sur le necking, j'ai personne qui sérieusement essayait de me faire croire que ce n'était pas de la sexualité. D'accord? Mais est-ce qu'on veut vraiment se poser ces questions-là, par exemple? Est-ce qu'on est prêt à se poser ces questions-là? Donc, quand est-ce que c'est trop loin? C'est trop loin quand c'est du sexe qui se passe dans ta tête. C'est trop loin quand tu es en train de t'en aller dans cette direction-là, ça ne devrait pas être comme ça. À mon avis, c'est trop loin quand ça ne se ferait pas vraiment relativement public. C'est ça que je crois. Fait que oui, à un moment dans mes fréquentations, j'étais à l'aise de laisser Esther chez elle, puis si tante Léontine de 80 quelques années est en train de nous regarder, notre chaperonne, j'étais à l'aise de donner un petit bec à sa bouche puis de m'en aller, admettons. Pas de scandale, ça va bien. Mais je veux dire, je pense qu'au temps d'Abraham, il m'aurait dit « Pardon, monsieur. » Mais j'étais, dans ma conscience, j'étais à l'aise avec ça, tu sais, puis je n'étais pas en train de m'en aller ailleurs. François.
Oui, est-ce qu'on pourrait dire que c'est trop loin quand on s'en demande si c'est trop loin? Autrement dit, quand on se pose la question, c'est qu'on cherche à
souvent
trouver une limite.
Souvent.
Alors que si on fait juste se tenir loin puis d'attendre le bon moment, ce qui était dit dans le mariage, ben, on ne se trompe pas à ce moment-là.
Oui, souvent, lorsqu'on se pose la question si c'est trop loin, c'est parce qu'on commence à faire de la gymnastique mentale pour réussir à se convaincre que ça ne l'est pas. Mais il y a des gens aussi qui sont très, très, très intègres, puis qui... Il y a des gens qui sont très, très, très intègres, puis qui sont très, très, très constipés aussi, je vais le dire comme ça. Puis il faut poser des questions dans ces cas-là. Fait que la personne pour qui tout est simple, tout est catégorique, puis tu sais très bien qu'est-ce qui est clair, tout ça... mais qui n'est pas capable, admettons. Fait qu'on va dire que Esther, là, j'aurais comme jamais pu lui toucher la main. Là. Honnêtement, j'aurais été vraiment inquiet. C'est correct de se poser des questions à ce moment-là. Fait qu'il y a quand même des gens dans nos milieux qui sont dans leur compréhension de ce que c'est l'intégrité avec Christ, les amène à vivre une vie qui est légaliste, mais qui est aussi très, très, très pris à l'intérieur. Puis c'est pas sain non plus. Fait que, en général, tu as raison. Quand je me demande si c'est trop loin, c'est parce que je commence à faire de la gymnastique pour me rationaliser que c'est pas trop loin. Ça pourrait arriver que je me pose la question parce que je suis pris dans une espèce de vision très, très fermée. Puis ça augure mal dans le sens qu'il faut... Peut-être que cette personne-là ne sera pas capable de parler de ça dans le mariage. Peut-être que cette personne-là ne sera pas capable de vivre ça sainement dans le mariage. Fait qu'il y a des choses quand même à dialoguer. Puis si on sent que ça va pas, bien, quand on est accompagné, on peut... demander à ce que ce soit un petit peu investigué, puis si on a besoin d'aide, on va chercher de l'aide. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je veux donner comme piste. Là. Je termine avec ceci. Il y a énormément de conséquences. Il y a énormément de conséquences à vivre la sexualité dans les fréquentations ou à vivre de l'intimité sexuelle dans les fréquentations. La plus grave des conséquences, c'est que vous déshonorez Christ. Ça, c'est la plus grave des conséquences. Vous méprisez Christ quand vous êtes en train de faire ça. C'est la plus grave. Vous comprenez, les gens ne vont pas être envoyés loin de Dieu en enfer pour l'éternité parce qu'ils ont couché ensemble en mariage. Ils vont être damnés parce qu'ils ont méprisé Dieu. C'est pour ça. Quand vous vivez pas dans la sainteté vos fréquentations, la conséquence la plus grave, c'est que vous déshonorez Christ. Vous n'êtes pas en train d'apprendre à marcher avec Christ puis à marcher dans la plénitude de l'Esprit. Ça, c'est la plus grave. La sexualité hors mariage a un impact tangible sur votre relation. Ça crée une intimité qui peut sembler être un remède à des choses qui ne l'est pas en réalité. La sexualité n'est jamais un remède à quoi que ce soit dans l'intimité du mariage. C'est pas vrai. C'est l'expression de quelque chose, c'est pas un remède. Ça crée une relation où on tolère ensemble le péché. Donc, lorsque je suis un couple qui est en fréquentation, puis il y a quelque chose où ils ont manqué à ce qui s'était entendu comme limite au départ, moi, je demande au monsieur de donner la direction de la repentance, de donner le leadership de la repentance. Première affaire à faire, demande pardon à la jeune fille que tu fréquentes de l'avoir déshonorée, puis de lui avoir manqué de respect. Puis demande pardon à Dieu avec elle, devant elle, puis repentez-vous ensemble. Parce qu'après ça, il va y avoir d'autres choses dans le mariage où vous allez avoir à le faire. Ça va être important. On achève. Que votre futur conjoint, future conjointe, soit complice avec vous de cette intimité-là, de ce péché-là ou non. Donc, qu'elle vous condamne pour ça ou non. Qu'elle accepte ça ou non. Même dans les cas où elle accepte. Vivre de l'intimité sexuelle dans vos fréquentations révèle énormément de choses sur ce que vous allez être comme futur époux. Énormément de choses. Sur votre dévouement à Christ, sur votre intégrité, sur votre capacité à marcher dans la sainteté, sur le fait que la personne avec qui je me marie, c'est la personne pour qui je veux me donner, pas la personne, premièrement, de qui je veux recevoir. Vous n'avez aucune idée à quel point vous révélez qui vous êtes, dans le fond, lorsque vous faites ça. C'est énorme. Et puis, évidemment, ça crée un super mauvais modèle pour les gens qui vous connaissent et qui ne sont pas niaiseux, ils lisent entre les lignes. Pour les non-chrétiens qui vous connaissent, ça crée un super mauvais exemple de ce que c'est l'Évangile et de ce que c'est le christianisme. J.S., je pense que tu auras le mot de la fin, mon ami.
Oui. En fait, j'ai une question que j'ai pris une réponse, j'ai une idée de réponse à ma tête, mais j'aurais aimé ça te voir l'articuler un petit peu.
Oui.
Un des dangers que je vois au niveau de la conception du mariage puis le côté sacré du mariage, pourquoi est-ce qu'on doit ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, etc., c'est qu'on a tendance à dire, bon, ben Dieu a dit ça, c'est comme ça qu'il faut le faire, donc à suivre un paquet de règles, finalement, puis dire, bon, ben je vais faire le bien, puis je ne vais pas désobéir, puis je vais obéir à Dieu. Mais il me semble que dans tout ce que Dieu fait, Dieu a une espèce de symbolique qui vient avec ça, où est-ce qu'il nous fait comprendre un peu plus pourquoi est-ce que le mariage est sacré. Mm-hmm. Et cette idée-là de, tu sais, je pense, par exemple, à différents exemples dans l'Ancien Testament, où est-ce que quand Abraham il a cogné sur la roche deux fois au lieu d'une fois, il y avait une symbolique qui était là. Donc, il a comme péché en ne respectant pas cette symbolique-là. Et j'aimerais ça voir un petit peu ta conception du pourquoi est-ce que le mariage est sacré et en quoi il y a une symbolique qui est liée avec Jésus, Dieu, l'Église, ouais, etc. Et en quoi peut-être ça pourrait nous aider à avoir une meilleure compréhension pour nous maîtriser puis obéir, finalement.
Bien, c'est une bonne question. Tantôt, je parlais de l'Évangile. Si je vis l'intimité sexuelle dans mes fréquentations, je prêche mal l'Évangile à mon épouse ou à ma future épouse, à mon futur époux. Je reflète mal l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est le don de soi. C'est Christ qui meurt sur la croix pour moi. C'est Christ qui se donne pour son épouse, pour l'Église. Fait que oui, c'est sûr que l'institution du mariage, là, j'aurais pu le prendre à partir de là, l'institution du mariage, c'est l'expression, c'est un reflet de l'union entre Christ et l'Église, de l'union entre Dieu et son peuple. Puis mon mariage doit être ça.
Est-ce qu'il y a pas un...
que je réponds à ta question.
Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le fait que Christ est mort pour nous, l'Église est fiancée en ce moment, qu'on n'est pas en relation complète avec lui, qu'on n'a pas cette intimité complète jusqu'au retour de Christ? C'est pour ça que j'ai une idée de réponse, mais il manque des éléments, puis je me demandais si tu n'avais pas quelque chose par rapport
question.
À ça.
Okay, c'est une bonne question. Ma réponse est non. On est marié avec Christ. On attend les noces de l'agneau, c'est vrai. Mais si je voulais comme aller dire, ben là, on est comme dans les fiançailles. On n'est pas encore mariés parce que les noces n'ont pas eu lieu. J'aurais l'impression de faire ce que les pères de l'Église faisaient un peu avec des paraboles lorsqu'ils tiraient des millimètres de leçons à travers chacun des détails d'une parabole, d'un enseignement de Jésus. Le bon samaritain, ils vont l'interpréter chaque détail plutôt que prendre l'idée centrale. J'aurais de la difficulté à faire ça parce qu'on est clairement déjà marié avec Christ, même si on va célébrer les noces. Si tu veux aller là, moi, je vais dire, OK, ben Joseph et Marie étaient déjà mariés avant de se marier. Puis c'est pour ça qu'il voyait sa séparation d'avec elle comme pratiquement un divorce. Puis c'est pour ça qu'il ne voulait pas la faire, même s'il était juste fiancé. Fait qu'on est aussi marié à Christ que Joseph l'était à Marie, si tu veux aller là. Je pense que là où la beauté de ce que Dieu a conçu doit nous inspirer puis doit nous guider dans nos fréquentations, dans notre intimité, c'est de réaliser que quand je me suis marié avec Esther, ma gloire à moi, mon privilège à moi, ça va être dans ma relation avec cette épouse-là de refléter l'amour de Christ pour elle. Puis me maîtriser dans mes fréquentations pour garder ce moment-là, ce jour-là où on va célébrer notre union pour vivre l'intimité, c'est dire combien Christ a aimé son Église. C'est dire combien Christ m'a aimé. Fait que j'irais plus là si je veux aller dans la symbolique, dans les fréquentations. Parce que les fréquentations, comme on les vit, sont un peu comme un petit peu hors du champ culturel de la Bible. Fait que je veux faire attention dans ce que j'apporte. Peut-être à partir des fiançailles, si on voulait les vivre comme ça. T'sais. Fait qu'on. Puis quand je dis qu'on est à l'extérieur, là, je m'excuse là, pour ceux que je suis en train de perdre, là. Je vais finir là. Mais quand je dis que je suis à l'extérieur du champ culturel de la Bible, je suis pas en train de dire que je suis non-biblique. Je suis en train de dire, ou anti-biblique, je suis en train de dire que les Écritures donnent beaucoup de liberté. Il y a des principes dans les Écritures, il y a des choses qui sont super claires, puis après ça, il y a beaucoup de liberté. Puis dans ce champ-là, je pense que c'est un champ de liberté. Par exemple, c'est pas écrit dans les Écritures qu'une femme et un homme ne doivent pas se choisir l'un l'autre. Les Écritures disent pas ça, donc on peut le faire. C'est pas écrit qu'un mariage doit être arrangé. T'sais. Donc on a une liberté. Fait que nos fréquentations, on le vit beaucoup à l'extérieur du champ culturel qu'on a dans cette époque-là des temps bibliques où on voit comment, dans l'Ancien Testament, ils vivent selon Dieu, puis dans le Nouveau Testament, ils vivent selon Dieu. Je vais plutôt tirer des principes de ça, puis là, je vais trouver comment l'appliquer dans ma relation. Je te dirais, la symbolique la plus forte, c'est celle du mariage, qui est notre union à Christ. Puis je veux préparer ce jour-là avec beauté, avec respect, avec sagesse. On va terminer avec un mot de prière. La semaine prochaine, on a notre panneau. Fait que tordez des bras si ça vous tente, parce qu'évidemment, j'imagine qu'écouter le panneau en audio, ça ne sera pas exactement la même chose que d'être ici avec les gens, puis je pense que ça va être super intéressant. Puis on va essayer de rendre des choses un peu plus concrètes à travers d'autres expériences. Je partage assez candidement notre expérience à Esther et moi, mais ça va être intéressant de rentrer dans l'expérience d'autres personnes. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on va te demander de bénir cette matinée, de continuer, Seigneur, à être avec nous dans ces réflexions-là qui sont super importantes. Et Seigneur, je conçois bien qu'en abordant tout ça aussi franchement et directement, il peut y avoir beaucoup de culpabilité dans le cœur de plusieurs qui n'ont pas bien fait, pas bien vécu leur fréquentation, pas bien vécu des fréquentations, le font peut-être pas bien maintenant, Seigneur. Et Père, on va te demander de nous donner, premièrement, une profonde repentance, là où nous péchons ou bien là où nous avons péché, Seigneur, une réelle repentance pour ajuster, enligner, Seigneur, notre vision des choses sur ta parole et accorde-nous, Seigneur, de saisir la grâce, d'accepter ton pardon pour entrer dans une véritable repentance où on marche d'une nouvelle manière, Seigneur, convaincu de ton pardon, mais déterminé à marcher dans tes voies. Je te prie, Seigneur, spécialement pour les hommes qui assistent à ce cours, je te demande de faire d'eux des hommes de conviction. Je te prie, Seigneur, pour les femmes, je te prie de faire d'elles des femmes de conviction, afin que chacun joue son rôle dans tout ça, mais avec une belle fermeté qui t'honore et te glorifie, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.